Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous êtes dans votre émission Ensemble faisons entendre la voix des jeunes. Aujourd'hui, nous allons parler des jeunes et des politiques en faveur de la planification familiale. Les jeunes et adolescents doivent surmonter de nombreux obstacles pour obtenir les services de santé, de la procréation et des produits de base dont ils ont besoin. Certains de ces obstacles touchent aussi les enfants et les adultes. D'autres sont propres aux jeunes et adolescents. Dans un nombre croissant de pays, il existe des initiatives visant à permettre aux jeunes et adolescents de surmonter ces obstacles et obtenir plus facilement des services de santé dont ils ont besoin. La plupart de ces initiatives sont menées à petite échelle et pour une durée limitée. Mais l'État peut jouer un rôle crucial en soutenant des politiques ambitieuses à un niveau national, interdire les mariages précoces, mener des campagnes de prévention des grossesses précoces et non désirées, adopter des lois qui autorisent l'accès à des informations sur la contraception et à des services de contraception, baisser les prix des contraceptifs pour les adolescents ou les rendre gratuits. Voici des exemples concrets et comment l'État peut avoir un impact concret sur la vie des millions de jeunes. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un jeune champion, une jeune championne, un agent de la santé. Bonjour messieurs, avant de poursuivre, je vais demander à chacun de se présenter.
Moi je suis Adam Diko, je suis championne pour la planification familiale de l'Alliance Droit et Santé en Afrique de l'Ouest.
Ok, bonjour madame. Adam Diko, quelles sont les actions politiques du gouvernement autour de vous en faveur des besoins en planification familiale?
Alors, les actions du gouvernement, tout d'abord, je vais parler des actions du gouvernement plus globalement et puis autour de nous. Alors, les actions du gouvernement en termes de planification familiale aujourd'hui, c'est qu'il faut voir au niveau du ministère de la Santé qui organise chaque année la semaine nationale pour la planification familiale et qui est une semaine consacrée uniquement à cette problématique où la parole est donnée aux associations et aux ONG intervenant dans ce domaine-là de pouvoir faire entendre leur voix. Et aussi, l'occasion est donnée aux organisations de la société civile de porter des plaidoyers fort pour la gratuité ou l'accessibilité des services de planification familiale. Donc, hormis cela, quand même, nous, on peine à voir les actions concrètes du gouvernement en termes des besoins en planification familiale ou d'autres sujets qui concernent la santé sexuelle et reproductive. Le mariage précoce, oui, ça a été pris un moment comme une priorité de l'État, mais on a vu que ça a été beaucoup plus des discours politiques que d'actions concrètes. Donc, du coup, autour de nous, nous ne voyons pas assez les actions du gouvernement autour de nous pour promouvoir ces questions de planification familiale, hormis les discours politiques qui sont tenus à l'extérieur ou même sur le plan national lors des événements.
Ok, madame, quelle amélioration politique pour la planification familiale des jeunes voyez-vous?
Alors, l'amélioration que nous voyons aujourd'hui en termes de planification familiale des jeunes, c'est qu'il y a eu une prise de conscience. Il y a beaucoup plus aujourd'hui de jeunes qui se soucient beaucoup sur ces questions de planification familiale, de santé sexuelle et reproductive. Nous avons vu l'émergence de beaucoup d'associations, de groupements de jeunes qui s'attaquent directement à cette problématique. Nous avons vu aussi que la jeunesse s'est tellement engagée sur ce chemin que le sujet n'est plus tabou. Un moment, le sujet de planification familiale ou santé sexuelle et reproductive était très tabou dans notre société. Voir un jeune qui parlait de ça, qui tenait des discours ou faisait des plaidoyers sur ces questions était un peu surprenant. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, les jeunes en parlent dans les grains, partout. Les jeunes portent des messages de plaidoyer, ils en parlent qui de droit. Il y a même des jeunes qui initient des dialogues avec les parents ou avec les leaders religieux sur ces thématiques. Donc, voici là quelques quand même améliorations que nous avons constatées à ces niveaux. Bon, parlant de l'aspect politique, c'est cette représentativité des jeunes dans les associations ou dans les ONG qui quand même essaient de faire beaucoup de travail pour que les jeunes quand même puissent avoir accès à des espaces de prise de décision, que ce soit au niveau national ou au niveau international, pour pouvoir parler de leurs besoins en termes de planification familiale.
Ok, madame, quelle mobilisation menez-vous ou pourriez-vous mener?
Alors, les actions que nous sommes en train de mener, que j'appelle aussi des mobilisations, c'est que nous mettons beaucoup plus l'accent sur l'accès à l'information, et ça à travers des campagnes de sensibilisation, que ce soit à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux, dans les grains, les visites à domicile, les causeries éducatives dans les écoles. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur ça parce qu'on s'est dit que les gens doivent avoir ces informations. Ils doivent savoir qu'ils ont droit à ces services-là, que c'est un droit pour eux, ils doivent le connaître et faire valoir leurs droits. Hormis les campagnes de sensibilisation, nous faisons aussi des campagnes de plaidoyer au niveau de l'État pour non seulement la gratuité ou la réduction considérable des prix de contraceptifs, mais aussi l'accessibilité et la qualité des services pour les adolescents et les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous partez dans les CSCOM, il n'y a pas un service dédié aux jeunes et adolescents. Donc, un jeune qui a des problèmes de santé sexuelle et reproductive, qui arrive dans les CSCOM, il n'y a même pas très souvent de personnel qualifié à pouvoir connaître ces problèmes-là. Donc, tu arrives seulement, ils te prennent, ils disent que tu as pas lu ou bien tu as ça. Donc, déjà, ça met une barrière entre le jeune et la prestataire des services qui est en face de lui pour pouvoir parler davantage de ses problèmes de sexualité et tout. Donc, nous faisons des plaidoyers au niveau de l'État pour que l'État puisse quand même recycler les personnes qui sont déjà là pour que ces personnes-là puissent quand même savoir que les jeunes ont des besoins spécifiques et quand ils arrivent, il faut les accueillir d'une manière assez spéciale et aussi essayer d'inclure aussi dans les CSCOM ou dans les centres de santé des services spécifiques aux jeunes. Que ça ne soit pas seulement des ONG ou les associations qui le font, parce que les programmes ont une durée de vie bien limitée. Donc, si ces programmes prennent fin, l'État doit quand même continuer. Donc, nous faisons le plaidoyer pour non seulement la continuité de ces services, mais aussi l'amélioration de la qualité des services qui est donnée dans nos différents centres de santé.
Je m'appelle Dr Aïdra Mamadou, je suis gynécologue obstétricien. Je suis le responsable de la maternité du centre de santé de référence de Kalabankoro.
Okay, merci Monsieur Aïdara. Alors, quelles sont les politiques actuelles du gouvernement en faveur du PF planning familial?
D'accord. Merci beaucoup pour vraiment cette question. Un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler de la question de planification familiale et les politiques du gouvernement vis-à-vis de cette planification familiale. Et avant de parler de la politique comme définition par rapport à la planification familiale, il faut savoir que la planification familiale est définie comme étant l'ensemble des moyens et des mesures de régulation de la fécondité, d'éducation, mise à la disposition des individus et des couples afin de contribuer à la réduction de la morbidité, mortalité maternelle, infanto-juvénile. Donc la planification ne se limite pas seulement à espacer les naissances, à avoir le nombre d'enfants, mais ça s'occupe également de la prévention des grossesses non désirées, ça s'occupe également de la prise en charge de l'infertilité du couple. Et également, ça s'occupe de la prévention des avortements à risque, des avortements donc non médicalisés, qui sont vraiment pourvoyeurs de décès maternels. Concernant donc la question par rapport aux politiques que le gouvernement mène concernant la planification familiale, et comme je vous ai tantôt dit, la planification est reconnue comme étant depuis longtemps en Afrique subsaharienne comme un moyen essentiel pour maintenir la santé de la femme et de la famille. Elle a un rôle très important dans la réduction de la morbidité, de la mortalité des mères et des enfants de moins d'un an. Au Mali, la faible utilisation des services de santé de la reproduction en général et en particulier celle de la planification familiale contribue beaucoup aux maladies et aux décès des femmes pendant ou après l'accouchement et les enfants de moins d'un an. Cette situation de faible prévalence de la planification familiale, environ on a un taux de 9,9% qu'on a retenu par rapport à la dernière enquête démographique de santé au Mali en 2012-2013, avec un taux de fécondité de 6,1, avec des besoins importants non couverts en matière de la planification familiale qui s'élève jusqu'à 26%. Donc, en dépit de la loi 02044 du 24 juin 2002, et nous avons constaté que les taux restent toujours faibles. Et c'est pourquoi on se voit tous interpellés, et le gouvernement, les personnels de santé, toute la communauté, pour faire face à cette faible prévalence de la contraception dans notre pays. La contraception va nous permettre d'éviter les grossesses précoces, d'éviter les grossesses tardives, d'éviter les grossesses trop rapprochées et des grossesses non désirées, ainsi que des grossesses trop nombreuses, qui sont tous pourvoyeuses de décès maternels, néonatales et infantiles. Ainsi, pour lutter contre ces mortalités, ces morbidités, donc l'État a participé de façon active à beaucoup de conférences internationales, au niveau africain qu'au niveau européen, et des conférences, par exemple, le cas de la population, planification familiale et développement à Ouaga en 2011, l'engagement de la société civile en faveur de la planification familiale à Dakar en 2011, et également la planification familiale à Addis Abeba en 2013, planification familiale en Indonésie en 2016, etc., etc. Avec l'initiative mondiale effectivement de la planification familiale 2020 qui est prévue pour réduire la mortalité maternelle et l'implication de tous les partenaires. Ce n'est pas seulement de la santé, mais également de la promotion de la femme, de la famille, de l'éducation et de la jeunesse. Donc, à la suite de ces conférences, ces rencontres africaines mondiales que le Mali, à travers un processus participatif et inclusif, a décidé un plan d'action de repositionnement de la planification. C'est pourquoi l'État est à sa 14e édition des campagnes planification familiale, dont la dernière date du mois d'avril, mai passé, où on a fait 2 mois d'affilée pour vraiment la campagne de planification familiale, où l'offre de services a été faite à tous les niveaux et de façon gratuite, avec la mise en alerte de tous les agents de santé. Et ça avait comme thème, adhérons tous à la planification familiale pour une meilleure autonomisation de la femme et de la fille. Voici les politiques, les moyens que le gouvernement est en train de mettre en œuvre pour pouvoir augmenter cette prévalence de planification familiale dans notre pays, qui est l'une des plus faibles dans le monde.
Docteur Aïdara, ces politiques que vous venez de citer, est-ce que vous allez les développer?
Oui, évidemment, c'est ça notre souhait en tant qu'agent de santé et encore en tant que gynécologue obstétricien qui s'occupe des affections des femmes, qui s'occupe des anomalies du fonctionnement de l'appareil génital de la femme, qui s'occupe des grossesses. Et je vois tous les jours des cas de décès, ça et là, que j'entends, le taux de mortalité est encore plus élevé au Mali. La dernière édition 2012-2003 de l'enquête, 2013 de l'enquête démographique de santé, a arrêté comme taux 368 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, ce qui est encore élevé. Et également, on a constaté que le taux de mortalité néonatale est encore élevé, qui va jusqu'à 34 pour 1000 naissances vivantes. Également, le taux de décès infantile, infanto-juvénile aussi élevé, qui va jusqu'à 56 pour 1000 enfants. Donc, nous sommes interpellés au niveau de la santé, au niveau des politiques, au niveau des religions, des cultures, que ces taux-là doivent vraiment baisser. C'est ça que recommande l'Organisation mondiale de la santé, que d'ici 2030, il n'est pas acceptable que le taux de décès maternel soit au-delà de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes. Vous voyez que l'écart est très très élevé. Mais avec l'implication des uns des autres, je pense qu'on va améliorer. On sait maintenant que de 2013 à maintenant, le taux de la contraception, de la planification familiale a augmenté. Et nous souhaitons que ça augmente davantage pour qu'on puisse répondre donc aux appels de l'Organisation mondiale de la santé, faire en sorte qu'il puisse avoir vraiment une baisse des taux de mortalité maternelle, des taux de mortalité néonatale et taux de décès également infantile d'ici 2013. Et nous devrons continuer à sensibiliser à tous les niveaux pour ce qui concerne les secteurs de santé. Pratiquement tous les jours, on fait des consultations, en même temps des causeries, débats par rapport à certains thèmes, dont la planification familiale. Quels sont les avantages? Qu'est-ce que ça prévient pour la famille, éviter la déperdition scolaire des élèves, éviter les grossesses non désirées des élèves, et ces grossesses qui peuvent être compliquées, associées à des hypertensions artérielles, associées effectivement à des complications lors de l'accouchement, et pouvoir même être responsable de la survenue des fistules obstétricales, ce qui est vraiment une situation très grave qu'on doit éviter. Également, il peut avoir la survenue de d'autres complications telles que l'anémie, etc. Et le pire des cas, c'est le décès maternel. Donc, nous sommes interpellés et par rapport à nos activités de tous les jours, on n'oublie pas de sensibiliser les femmes. Chaque fois qu'il y a un accouchement, sensibiliser la patiente de ne pas avoir une grossesse à moins de 2 ans. Sinon, le risque de rapprochement des grossesses est un facteur de risque pour les complications. Éviter les grossesses avant 18 ans. Éviter les grossesses au-delà de la quarantaine. Éviter les grossesses à moins de 2 ans. Et sinon, éviter les grossesses au-delà de 6 maternités. Toutes ces situations ont des complications, sont des facteurs de complications par rapport à la situation dont on vient de parler, la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale et juvénile.
Okay. Merci docteur Aydara, ça a été un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Ensemble, nous faisons entendre la voix de Dieu. Merci.
Je vous en prie.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je suis Ousmane Maïga, secrétaire exécutif de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, HCAD Mali, membre de l'Alliance Droit et Santé en Afrique de l'Ouest.
Ok, merci, monsieur Maïga. Selon vous, d'après les témoignages, comment répondre aux besoins des jeunes et améliorer les politiques en faveur de la planification familiale des jeunes?
Comme vous le savez, au Mali, nous avons plus de 67% de la population qui a moins de 25 ans et cette couche est exposée à plusieurs facteurs, notamment les cas de grossesse précoce, les cas d'IST et tout. Mais spécifiquement en matière de planification familiale, cette couche doit être touchée tant par les messages de sensibilisation et d'information, mais aussi impliquée dans les campagnes de mobilisation sociale, et les politiques doivent aussi rendre accessibles les produits de planification familiale à ces jeunes-là qui ont souvent du mal à être bien accueillis dans les centres de santé, dans les hôpitaux de manière générale. Il doit y avoir des centres spécifiques qui peuvent répondre aux besoins spécifiques des jeunes, d'où nous appelons un peu les services amis des jeunes. Donc l'État doit changer à des politiques de manière institutionnelle, mais aussi en intégrant ces services-là dans le chemin de la décentralisation du système sanitaire, notamment dans les CESCOM, dans les CCRF, dans les hôpitaux et dans d'autres centres de santé, afin que ces jeunes-là puissent être mieux pris en charge en termes de planification familiale et aussi de santé sexuelle et reproductive de manière générale. Et lors de l'élaboration des politiques, les jeunes doivent être effectivement impliqués dès les réflexions jusqu'à l'approbation de ces politiques, les impliquer aussi dans leur mise en œuvre et l'évaluation de ces politiques. Cela permettra de les rendre plus adaptés à leurs besoins et aussi à prendre en compte leurs préoccupations.
Et voilà, mesdames, messieurs, notre émission qui portait sur les jeunes et les politiques en faveur de la PF est maintenant terminée. Une journée entière n'aurait pas suffi pour faire le tour de la question. Mais avant de rendre l'antenne, nous allons partager ce dernier message de plaidoyer adressé par des membres de l'Alliance au Mali. Il est nécessaire d'impliquer les jeunes et ados à toutes les étapes de création des plans et politiques nationales, d'allouer du budget et des moyens techniques et ressources humaines spécialement pour la SSRAJ au sein de la SRPF. Formation du personnel de santé, des enseignants, aménagement des centres jeunes, gratuité des produits PF pour les jeunes, de lutter contre les mariages précoces et grossesses non désirées par la sensibilisation des populations pour faire tomber des préjugés et les tabous autour de la sexualité des jeunes. Chers auditeurs et auditrices, retrouvez plus de témoignages des champions et championnes de la PF sur generationpf.equipop.org.
Lonely road to Babylon, where
is my family and my country, heaven knows.